L'appel d'un mouvement, émission bimestrielle sur Radio Campus Paris, le vendredi à 18h.
Techno is a movement, it is a revolution, it's a culture.
L'appel d'un mouvement, Berlin et la techno. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de l'appel d'un mouvement. Alors, pour ce premier épisode, je vous embarque à Berlin, en 1988. L'idée, c'est que, à cette époque, on a la jeunesse berlinoise qui est lasse de la décennie en cours et qui cherche à vibrer. Seulement, ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle va certes vibrer, mais elle va avant toute chose être aux premières loges d'une véritable révolution. Alors le principe de cette émission, ça va être de comprendre comment, en fait, cette révolution à caractère musical bien entendu, va aboutir à la techno et faire de la capitale allemande un pilier de la musique électronique et underground. On repart en 1988 et on s'intéresse avant toute chose à la base. Cette base, c'est, à l'époque, une scène musicale qui est finalement pas terrible. En fait, on a surtout une opposition nette entre un public rock assez âgé qui s'accroche à une gloire passée et qui répondra à la musique électronique avec le sempiternel « c'était mieux avant ». Et de l'autre côté, on a la jeunesse berlinoise qui est ennuyée, voire dégoûtée de cette scène musicale stagnante. Alors, quand on a de la musique électronique qui arrive des États-Unis à la fin de la décennie 80, c'est tout simplement frappant de nouveauté. Et c'est cette nouveauté, à la fois dans le son et dans sa production, qui résonne à l'ouest, mais aussi à l'est. Bon, alors, depuis le début de l'émission, je parle de musique électronique, mais il s'agirait de définir le terme. En fait, cette musique, elle apparaît tout d'abord avec la house music, qui est créée à Chicago au milieu de la décennie 80. Et puisque c'est avec ce genre musical que tout va commencer, je vous propose d'écouter un extrait et de vous faire une idée de ce qu'était la house music à cette période. Alors je vous laisse avec un premier son, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du classique « Move Your Body » de Marshall Jefferson, sorti en 1986.
Rock your body, rock, shake
si la house music marque l'arrivée de la musique électronique à Berlin, néanmoins le genre va très vite se transformer et se métamorphoser. Alors, si on ne peut pas tout de suite parler de techno, on peut néanmoins noter l'apparition de l'acid house. Pas d'inquiétude, si le genre ne vous dit rien, on aura l'occasion d'en écouter un morceau dans quelques instants. Toujours est-il que la house et acid house arrivent à Berlin à la fin de la décennie 80. Et si la house constitue l'origine du mouvement et est jouée dans plusieurs discothèques, et ben en fait c'est l'acid house qui aura surtout un réel impact à Berlin. Et si le genre connaît un tel engouement, c'est avant tout grâce à la radio. Et pour ça, on remercie Monika Dittel, première animatrice radio à passer de la house et acid house à l'antenne. Alors voilà, ça se passe sur la radio SFB et plus précisément l'émission Radio for You. Il s'agit donc d'une radio de l'Ouest, mais elle est aussi captée à l'Est et j'aime assez bien l'idée que les ondes hertziennes reliaient les deux Berlin. Par ailleurs, une anecdote qui annonce la couleur, c'est que Monika Dittel diffusait des messages cryptés pour indiquer les lieux des soirées Acid House et donc dès le début, on voit que ça joue sur l'illégalité de la chose et l'aspect tout à fait underground. Mais au-delà du rôle de la radio, on peut aussi se demander pourquoi finalement est-ce que la capitale allemande a-t-elle été tout particulièrement réceptive à cette nouvelle musique ? Eh bien, il se trouve que cette réception, qui va très rapidement se transformer en véritable engouement, est permise grâce à plusieurs facteurs propres au contexte de l'époque. C'est à base de population d'artistes, de conditions économiques plutôt favorables et même, plus surprenante celle-là, grâce à la culture hip-hop, puisque ce genre permet l'initiation de l'expérimentation musicale sur les platines en fait. En plus de ce contexte favorable, l'expansion de la house et acid house est encouragée par l'importante volonté de changement qui caractérise la jeunesse berlinoise de l'époque. Encore une fois, il est question de sortir de l'impasse des années 80, mais aussi de concrétiser les changements qui commencent doucement à s'opérer à la fin de la décennie. Si bien que cette nouvelle musique est aujourd'hui qualifiée comme la bande-son de la liberté à Berlin. En fait, comme nulle part ailleurs, elle semblait annoncer un changement imminent. Alors voilà, vous l'aurez peut-être remarqué ou vous le remarquerez assez tôt, la liberté c'est vraiment le mot d'ordre dans ce mouvement. Pourquoi ? Parce que en fait la liberté elle se retrouve dans le peu, voire l'absence de paroles, qui permet de se faire sa propre idée tout au long du son. Cette liberté on la retrouve aussi dans l'aspect visuel qui est tout à fait retravaillé lors des soirées et pour lesquelles on peut créer l'atmosphère que l'on souhaite, donc avec des jeux de lumière bien particuliers à base de stroboscope et fumigène. En fait c'est simple. Une toute nouvelle scène pouvait être créée et c'était juste grisant pour la jeune génération de se dire qu'elle pouvait être elle-même à l'origine de ce nouvel univers. Et enfin, la liberté est dans la danse. Avec la nouvelle scénographie, le jeu de lumière permet de se libérer du regard des autres et il n'y a plus qu'à bouger comme on le sent sur cette nouvelle musique. Alors, chose promise, chose due, pour illustrer le genre, je vous propose d'écouter un peu d'Acid House avec Baby Ford et son fameux Uchi Kuchi, sorti en 1988. We'll be right back. juste avant le morceau, je commençais à parler des premières soirées et notamment de l'atmosphère qui était créée. Mais du coup, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ces soirées et notamment de ceux qui les ont initiées. Pour ça, on a le célèbre Dr. Mott et son compère Magic Johnson qui revendiquent l'organisation de la première soirée Acid House à Berlin, le 21 septembre 1988. Et oui, on est précis par ici. Mais concernant les lieux pionniers, il me faut mentionner le Fish Bureau. Créé au milieu des années 80 par l'impresario Dimitri Eggman, ce club accueille, dès la fin de la décennie, des soirées Acid House dans sa cave, et c'est ainsi que naît le mythique UFO. L'UFO est alors reconnu comme étant le premier club Acid House de Berlin, et aujourd'hui comme un des fondements de la culture électronique et techno dans la capitale allemande. Il faut s'imaginer qu'il s'est joué une musique dite abstraite et sans conceptualisation, ça donne tout de suite le ton des soirées underground et confidentielles. À nouveau, on doit à Dr. Mott un événement majeur de la culture Acid House avec la création de la Love Parade, dont la première édition a lieu en juillet 89. La Love Parade, elle prend exemple sur le Summer of Love de cette époque, et qui a lieu en Angleterre, et a pour unique règle que seul l'Acid House doit y être joué, selon les volontés du docteur, bien entendu. Si la première édition est loin d'avoir le succès qu'on lui connaîtra les années suivantes, elle permet néanmoins d'ouvrir la voie à la musique électronique et de véhiculer un message de paix et amour, le tout en écoutant du son. Pour vous donner une idée de l'ambiance dans Berlin en ce 1er juillet 89, je vous propose d'écouter un morceau du DJ Kid Paul qui justement mixait à cette première Love Parade. Alors je vous laisse avec le morceau Acid in My House de Kid Paul and the Weird Club featuring Hitman. les soirées précédemment citées ont lieu à l'ouest, il faut néanmoins pas oublier l'est de Berlin. Une soirée en particulier peut être considérée comme un tournant. Nommée Die Macht der Nacht, littéralement le pouvoir de la nuit, cette soirée en fait elle voit jouer des DJ de l'ouest à l'est. Et elle suppose par extension une certaine prise de position, voire émancipation, puisque à l'époque de la RDA, toute activité, y compris les événements et soirées culturelles, devait servir à promouvoir le régime socialiste. Alors encore une fois, on sent comme un petit vent de liberté à ce moment-là, comme l'annonce d'un changement imminent. On a des jeunes de l'Est qui prennent un malin plaisir à voir les officiers de la Stasi déboussolés face à un public hétérogène et adepte d'une nouvelle musique sortie de nulle part, mais qui semble déjà susciter un engouement certain.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Le 9 novembre 1989, Günther Schabowski, porte-parole du gouvernement en RDA, annonce lors d'une conférence de presse l'ouverture des frontières entre l'Est et l'Ouest. Il ajoute que cette nouvelle réglementation entre en vigueur immédiatement, sans délai. Quelques heures plus tard, c'est la chute du mur. À ce stade, il va alors s'agir de comprendre l'impact de la chute du mur de Berlin sur la culture techno. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais citer le livre « Erklang der Familie » de Felix Deng et Sven van Tulen, puisqu'un extrait de sa préface résume bien la situation de l'époque. Alors je cite « La techno est devenue la bande-son de l'état d'urgence post-chute du mur pour trois raisons. La puissance des nouveaux sons, la magie des lieux et les promesses de liberté qu'elle suggérait. » Pour entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à la puissance de ces nouveaux sons. Alors l'idée étant, depuis le début, que la musique électronique se métamorphose très vite. On a commencé avec la house, l'acid house, et à ce stade, on va enfin commencer à parler de techno. Alors la techno arrive petit à petit, et son apparition est encouragée par de nouveaux acteurs et de nouveaux événements qui prônent en fait une musique toujours plus dure, toujours plus abstraite, et tout simplement une expérimentation musicale beaucoup plus intense. À ce titre, on va avoir dès 1990 des soirées comme les Cyberspace, organisées par le DJ Tanit, ou encore les Technocides de VolexDP. L'idée d'aller toujours plus loin, direction l'espace en fait finalement, est notamment retranscrite sur les flyers promouvant les soirées Technocides, et la mise en garde y est un peu plus claire. Attention, Technocide n'est pas un nouveau synonyme de disco. Des beats techno venus de la house, de l'industriel, du hip-hop, de l'EBM, de la new beat et de l'acid house sont mis ensemble avec des lumières psychédéliques et des installations pour produire des effets sur le subconscient. Dans l'extase complète, les frontières du temps et de l'espace disparaissent. Les visions du subconscient ouvrent sur le cyberespace, ces espaces incommensurables situés derrière les moniteurs, les synthétiseurs et les antennes satellites. Ensuite, la préface mentionnait la magie des nouveaux lieux. Et pour se rendre compte vraiment de l'impact de la chute du mur dans la scène techno, je voudrais reprendre les propos de Dimitri Eggman lorsqu'il explique que la chute du mur engendrait une atmosphère incroyable, et ce pour trois raisons. Il n'y avait ni couvre-feu ni restrictions, on trouvait des tas de lieux abandonnés à l'est, et les autorités ont laissé ceux qui le voulaient utiliser les lieux comme ils le souhaitaient. L'idée étant vraiment qu'on est dans une période de bouleversement historique, lors de laquelle les politiques et autorités avaient d'autres priorités que de se soucier des vagabondages du groupe de jeunes. À partir de là, Berlin-Est est devenu un véritable terrain de jeu, du fait de tous les quartiers déserts, des immeubles désaffectés. On a vraiment des soirées acid house et puis techno qui s'y sont multipliées. Et en fait, c'est simple, tout était possible puisque tout était à reconstruire et on assistait à une véritable euphorie collective à cette période. Donc voilà, faut vraiment s'imaginer que la culture techno grandit et se diffuse à Berlin dans ce contexte d'atmosphère vraiment sombre et désertique et carrément underground. Et au-delà de ses arguments, elle y trouve une telle résonance parce qu'elle a pu y être vécue à 100% sans entrave. Un autre point, et pas des moindres, c'est que ces soirées ont permis les premières rencontres entre des jeunes de l'Est et de l'Ouest. Et l'impact a été tel que certains acteurs de cette scène émergente déclarent aujourd'hui que la réunification a eu lieu dans l'underground sur les dance floors. Bon allez, assez parlé, maintenant place au son, et pour se donner une idée de l'atmosphère dans ces soirées encore une fois, je vous propose d'écouter le morceau Neutron Dance du groupe Cassiopeia, sorti en 1991.
Ignition sequence starts.
Alors, si j'ai décidé de vous partager ce morceau en particulier, c'est parce qu'il s'agit ici d'un son mixé par le DJ Tanit lors d'un live sur la radio DT64. Parce que oui, encore une fois, on doit beaucoup à la radio, et notamment cette fois-ci à l'émission Dancehall, présentée par l'animatrice et productrice Maroucha. Cette émission, elle a été créée en 1990, et elle revendiquait une techno par et pour toutes et tous, tout en diffusant des morceaux des premières heures du genre. Maroucha encourageait d'ailleurs ses auditeurs à lui envoyer des démos de leurs sons pour les passer à l'antenne. Bref, c'était un des médias majeurs qui portait la culture techno à cette époque. Au-delà de ce média, je voudrais parler avec vous d'un autre acteur de l'industrie musicale qui a largement contribué à la diffusion de la culture techno à Berlin. Alors il s'agit ici du disquaire Hardwax. Ce disquaire ouvre peu après la chute du mur et devient très vite le lieu où il faut être pour réussir à mettre la main sur des disques rares. En fait, c'est simple. L'idée d'Hardwax, c'est de se fournir en disques qui ont été laissés de côté, voire qui sont en train de pourrir dans une cave de l'autre côté de l'Atlantique. Et cette idée de vraiment diguer et trouver des sons issus des premières heures de la techno aux US fait que beaucoup de classiques, introuvables ailleurs, ont atterri à Berlin. Alors, dès le début de la décennie 90, les DJ berlinois ont pu se fournir plus facilement en disques, ce qui marqua une nouvelle étape dans le développement de la scène électronique. Ça leur a permis de devenir autonomes et les arrivages de disques, tous plus rares les uns que les autres, offraient juste des possibilités de mixage infinies. Pour vous dire, le disquaire était considéré comme un lieu où on s'éduque à la musique, et je trouve que cette idée résume parfaitement l'importance de l'endroit.
Then I made contact with the only person that I knew in Germany, which was Dimitri from Chazor, because he had the label Interfish that had licensed the album Final Cut. So I called him and told him, do you remember me? My name is Jeff Mills from this group. And he said, yeah. And he asked us if we would want to come over and DJ. And I said, yeah, I didn't want to go by myself, so I asked Blake to come with me. So that was the first time that we came to Germany. It was Blake and myself representing Underground Resistance. And we toured a little bit in Germany. And I went back to Detroit and reported exactly what we seen, and then we came up with this project, X101, and then we licensed that to Chazor. And then that was the first release of the
Le point d'orgue de l'année 91 pour la scène techno berlinoise, c'est la performance d'Underground Resistance au club Le Trésor. Invité par Dimitri Eggman, ce collectif est originaire de Détroit et est considéré comme fondateur de la techno et ses membres comme les parrains du genre. Ici, le crossover Détroit-Berlin se justifie par des similarités entre les deux villes qui les ont poussées à vraiment travailler ensemble. Par exemple, ces deux villes étaient décrites comme étant vraiment sombres et grises, mais on peut relever que cette atmosphère particulière était comme revendiquée à Berlin. Il y avait une dimension artistique. Et en fait, cette dimension était telle que lorsque les membres d'Underground Resistance sont venus jouer au Trésor, ils ont trouvé que le lieu était idéal pour jouer leur son. C'était vraiment le lieu où leur musique faisait sens, en fait. Lors de son interview pour le livre Der Klang der Familie, un des membres d'Underground Resistance, Robert Hood, s'exprime ainsi, et je cite, « La musique futuriste et expérimentale était pour nous comme un vaisseau spatial avec lequel on pouvait s'enfuir, dans un futur où nous serions tous unis en race et en religion, où les catégorisations seraient détruites comme le mur de Berlin. » Alors le live d'Underground Resistance apparaît comme une évidence pour la scène berlinoise qui veut plus que tout se diriger vers la techno. On assiste à la concrétisation d'ailleurs de cette collaboration en 1991 lorsque sort le disque X101 réalisé par Underground Resistance et produit sous le label Trésor Records. Bien évidemment, on va s'écouter ça tout de suite avec le morceau Sonic Destroyer. La particularité des années 90, c'est qu'elles connaissent à la fois la naissance de la techno à Berlin, mais aussi les événements qui vont diviser la scène. À peu près à la moitié de la décennie, on entre alors dans l'ère post-moderne de la techno, avec l'émergence de nouveaux genres de musique électronique. Ces genres sont soit totalement nouveaux, soit il s'agit de différents électros mixés avec de la disco, de la funk, de la pop, etc. Ce genre de morceaux rompt donc avec l'idéal d'un son toujours plus dur, plus drastique, et on assiste à une atomisation de la scène en quelque sorte. Il y a ceux qui souhaitent poursuivre dans la voie d'une techno toujours plus dure, ceux qui se tournent vers des genres moins hardcore, ceux qui produisent des hits et veulent populariser le genre, bref, tout un tas de désaccords et de fractures auxquels on assiste. Pour illustrer ce conflit interne, je voudrais mentionner le hit de Maroucha. Oui, vous avez bien entendu, l'animatrice de la première émission techno à la radio berlinoise a été internationalement connue pour sa reprise de Somewhere Over the Rainbow dans un style électropop. Le son, sorti en 1994, devint rapidement un hit, tout en incarnant donc une véritable trahison pour ceux qui se voulaient être les puristes du genre. En tout cas, je vous laisse vous faire un avis et vous propose qu'on se l'écoute de Spa. Alors c'est parti pour Somewhere Over the Rainbow de Maroucha. Ainsi, plus la techno s'exporte au grand public, plus les initiateurs de cette culture ont l'impression que l'esprit techno se meurt. L'underground passe au second plan et l'aspect pécunier prend la relève. On assiste aussi à une starification des DJs, ce qui va vraiment à l'encontre des valeurs de la culture techno, puisque aux premières heures du genre, vraiment les DJ, faut se dire qu'ils ne jouaient même pas sur une scène en fait. Et on n'allait pas à une soirée pour écouter un DJ en particulier, on allait à une soirée pour écouter du son. Or là, on a vraiment une starification. Petit à petit, Berlin se remet de la chute du mur, alors les vagabondages et les soirées improvisées dans l'Est abandonnées se raréfient. Les contrôles sont plus fréquents dans les clubs et les organisateurs sont contraints de respecter de nouvelles règles et lois. Bref, il y a une sorte de conformisation et une restriction de la liberté et de la spontanéité, deux qualités pourtant intrinsèques au mouvement à ses débuts. Un antagonisme qui illustre parfaitement le conflit de l'époque, c'est celui de la Love Parade et de la Fuck Parade. En fait, au fur et à mesure des années, la Love Parade elle va connaître un succès de plus en plus important. Mais ce succès s'accompagne aussi de dérives commerciales, pour lesquelles elle va être pointée du doigt, et notamment on va voir l'apparition de sponsors. Alors pour dénoncer et pallier les dérives de la Love Parade, on a la Fuck Parade qui est créée en 1997, et dont l'idée est de partager et revendiquer ce que seraient les véritables valeurs techno. Bon, malgré ce bilan quelque peu pessimiste, les désaccords qu'il y a pu avoir au sein de la scène n'entravent en rien l'importance de la techno dans le paysage culturel berlinois. À ce sujet, le dernier fait notable, c'est la reprise de la Love Parade depuis le samedi 9 juillet 2022, sous le nom cette fois de Rave the Planet, et organisée par l'association du même nom. Cela permet de conclure tout ce qui a été expliqué tout au long du podcast, que la culture techno fait partie intégrante de l'identité de la capitale allemande. D'ailleurs, cette reconnaissance de la culture techno se retrouve dans l'initiative du collectif Rave the Planet, qui, depuis fin 2021, souhaite que la culture techno berlinoise soit classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Je voudrais maintenant reprendre les propos de Dr Mott pour conclure cette émission, lorsque le DJ nous explique que la techno à ses débuts et la techno d'aujourd'hui se correspondent, dans le sens où les médias n'en parlent pas vraiment et que cela reste un mouvement pas mal incompris. Certes, on a des DJ populaires et des musiques commerciales sont jouées dans des endroits en particulier. Cependant, de nombreuses petites scènes tout à fait underground existent et sont préservées, permettant ainsi à la culture techno d'être pérenne et fidèle à ses débuts. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Appel d'un mouvement.